Jusqu'à 1h sur Europe 1, Sophie Peters.
De vous retrouver ce soir dans la libre antenne pour ces 2 heures ensemble et en direct sur l'antenne d'Europe 1. Je vous invite à nous appeler au 39 21 pour ouvrir grand vos fenêtres intérieures. Il est vrai que lorsque l'on va mal, on a tendance à se fermer au monde et aux autres pour mieux se protéger. On a le sentiment de retrouver un peu de pouvoir, de décision et d'action, celui de résister en se fermant. Sauf que l'on se prive d'échanges qui permettraient de reprendre confiance en soi au travers des autres. Quand on se sent seul, mal aimé ou incompris, le seul pouvoir qu'il nous reste est celui de la rupture. Rupture avec les liens du corps, de l'apprentissage ou de la sociabilité. Tous ceux qui agissent ainsi sont en général de grands sensibles, mais surtout sensibles à la déception. La sensibilité pousse à rechercher quelque chose de fort, mais qui rend vulnérable à la déception. Et quand on est déçu, eh bien la première tentation est de se retrancher pour se protéger contre la souffrance. La reprise de confiance ne peut se faire que dans les liens. Il s'agit de transformer la destructivité de l'isolement en créativité dans nos capacités relationnelles. Accéder à des plaisirs nouveaux. Et parce que la vie, c'est l'échange et la création, je vous propose de nous rejoindre ce soir au 3921, de venir échanger avec nous pour faire l'expérience d'être reliés, de se donner la main. Quentin et Corentin attendent vos appels au 3921 et c'est Nicolas Godet qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi intervenir dans l'émission par SMS au 739-21 en commençant votre message par le mot « nuit » écrit en majuscule. Allez, 39-21, ici, on vous écoute et on vous répond.
Pour parler à Sophie Peters,
appelez le 39-21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel.
Lucie et Christine qui nous envoient un message pour vous qui parle des SEL, SEL, services échanges locaux qui sont super pour les rencontres. Il y en a dans le Nord. Lucie trouverait sûrement du réconfort, dit Christine. Voilà, j'espère que vous entendrez ce message, Lucie. Bonsoir Sarah.
Bonsoir Sophie.
Bienvenue.
Merci de me recevoir.
Oui.
Alors j'ai bien écouté l'intervention de Lucie avant, donc il y a des choses qui sont un peu qui risquent d'être un peu redondantes, je m'en excuse par avance.
Ben non, excusez pas, ça fait écho en fait. Hein, on vit tous des choses en lien souvent, ouais.
En fait, donc la raison pour laquelle je souhaitais être, vous contacter, c'était pour être un peu éclairée compte tenu de la situation que je vis depuis près de 2 ans et demi maintenant, puisque je suis tombée enceinte en 2015 et j'étais dans une relation très très conflictuelle et pas du tout. C'était un accident et c'était vraiment pas la personne pour moi qui pouvait qui pouvait convenir dans ma situation et pour aussi élever un enfant. Enfin voilà, donc c'est arrivé à un moment en plus où je décrochais un CDI. Enfin alors que j'étais au chômage depuis pas mal de temps, donc une fois que j'ai annoncé aussi cette nouvelle, ma période d'essai a été rompue. Et donc ma grossesse ne s'est pas très bien passée. Le père de ma fille a commencé à être différent, en fait, au moment de la grossesse, plus violent. Enfin, autant il était un peu dénigrant et rabaissant dans les mots. Et là, c'était plus dans les gestes, en fait, et il a commencé à être violent. Aussi physiquement, donc pendant la grossesse, c'est ce qui a fait que j'étais quasiment tout le temps en dépression pendant cette grossesse et je l'ai très mal vécue. Donc j'étais assez ébranlée parce que j'avais l'habitude de prendre ma vie en main et c'était pas du tout le cas. Là, je perdais le contrôle absolument de tout. Et je suis on a eu plusieurs séparations pendant la grossesse. Finalement, il y a eu on s'est remis ensemble et puis Et puis j'ai accouché. Enfin, je pensais que le fait d'avoir un bébé, enfin, de le voir en tout cas et de le tenir, de le porter, pouvait lui rendre les choses différentes au père de ma fille. Et en fait, ça s'est pas passé du tout comme ça, puisque souvent il me disait oui, mais pour nous les hommes, c'est pas tangible. Tant qu'on, enfin, vous portez l'enfant, donc vous comprenez, vous ressentez les choses, mais pour nous, enfin, moi j'ai besoin de le voir. Enfin, de voir le bébé, quoi. Donc, moi, j'attendais cet accouchement en me disant qu'il allait peut-être avoir le déclic. Il n'a pas eu ce déclic, en fait. Et au contraire, ça ne s'est pas très bien passé du tout les premiers jours, puisqu'il est venu s'installer chez moi pour faire... pour jouer ce rôle, en fait, auprès de l'enfant, auprès de moi, puisqu'on n'était pas... on ne vivait pas ensemble. Et finalement, enfin... sa violence s'est aussi retournée contre notre fille, puisqu'il l'a secouée alors qu'elle était vraiment toute petite. Elle avait, enfin, on arrivait de la maternité quelques jours plus tard, en fait, hein, puisqu'elle pleurait beaucoup et lui, il a un peu pété un câble.
Enfin, bon, oui, elle pleurait beaucoup.
C'est son expression.
Ouais.
C'est son expression, péter un câble. Hein. Et puis, donc voilà, tout ça fait que bon, la grossesse n'a pas été bien vécue. Mon début de maternité non plus, puisque suite à ça, il y a eu une rupture définitive, puisque j'avais compris que la violence que j'avais subie avant et pendant la grossesse, finalement, n'était pas due au fait que cet homme avait des problèmes avec les femmes, mais que, parce que, enfin, c'est ce qu'il m'expliquait souvent par rapport à sa relation avec sa mère, en fait. Mais que c'est, enfin, là, comme il a usé cette violence aussi sur notre fille, notre bébé, j'ai compris qu'il y avait un problème plus profond, en fait.
Bien sûr,
Et là, j'ai voulu protéger ma fille, en fait, puisque j'ai pas su me protéger moi à l'époque, et j'ai eu envie de protéger ma fille, puisque c'était, enfin, elle est venue au monde, oui, par accident, mais j'avais pas envie de pas qu'elle grandisse dans cette ambiance, si vous voulez.
Oui.
Donc j'ai pas, mais du coup, je me suis pas du tout ménagée dans cette histoire, finalement, parce que j'ai pas, enfin. C'est ce que beaucoup de gens me disent, c'est que j'ai pas beaucoup réfléchi. J'étais très vulnérable après l'accouchement aussi. Et j'ai, enfin, c'est vrai que quand je lui ai dit qu'on rompait, que c'était définitivement terminé, moi j'étais aussi dans une procédure d'expulsion, de fin de bail, en fait, plutôt. Que l'expulsion, elle arrive plus tard, mais j'étais en fin de bail juste après, juste au moment de l'accouchement, et le bail n'était pas renouvelé. Donc j'ai eu j'ai fait beaucoup de démarches pour le coup, pour pas me retrouver dans une situation trop précaire avec ma fille. J'ai vraiment retourné la terre entière, quoi, parce que les dossiers, enfin, et là, étant sur la capitale, c'est vrai que c'est beaucoup, enfin, il y a plus d'associations, il y a plus d'interlocuteurs possibles dans ce genre de situation, mais pour autant, malgré toutes ces démarches, l'État est même condamné d'ailleurs par le tribunal administratif, puisque j'aurais dû être logée depuis vraiment très longtemps.
Oui, avec un bébé.
Avant même le bébé, il y avait un jugement pour fin de bail, on est passé devant un juge, etc., parce que je contestais cette fin de bail, puisqu'elle était intervenue alors que je demandais, si vous voulez, des travaux au propriétaire pour pas trop rentrer dans les détails. Mais disons que, bon, donc tout ça est arrivé un peu en même temps. Le fait d'être licenciée, de perdre ce travail, d'être en sursis au niveau du logement avec un bébé, et puis ma maternité qui démarrait aussi, alors dans une situation où j'étais très isolée.
Parce que, Sarah, vous avez de la famille sur laquelle vous pouvez compter, des parents, frères et sœurs, amis, enfin... Comment ça se passe pour vous ?
Pendant cette relation avec le père de ma fille, je me suis beaucoup isolée de mes amis qui ne l'appréciaient pas. Et moi, j'avais tendance à souvent prendre sa défense et à penser qu'ils ne le comprenaient pas. Il était très fusionnel, en fait. C'était quelqu'un qui voulait toujours...
qui vous a isolé.
Qu'on soit toujours ensemble, qu'on fasse tout ensemble. Mmh. Et côté famille, c'est vrai que lorsque j'ai annoncé cette grossesse à mon père, parce que ma mère était décédée à l'époque déjà, mais quand j'ai annoncé la grossesse à mon père, Bon, le fait qu'ils ne connaissent pas le père de ma fille, le fait qu'ils ne sachent pas que j'étais en couple, puisque je n'avais, enfin, je suis très discrète sur ma vie, en fait. Il a aussi mal pris le fait qu'un bébé arrive comme ça, sans hors cadre familial au sens classique, quoi, mariage, enfin, d'être en couple, d'habiter ensemble. Donc ça m'a isolée aussi de mon père, du coup, et d'autant que le père de ma fille n'a pas fait sa reconnaissance en paternité tout de suite, puisqu'il a utilisé un peu cette situation pour tenter de me faire accepter certaines choses. Et donc oui, j'ai été très isolée, et je le suis d'ailleurs toujours, mais quand je me suis isolée un peu malgré moi, parce que je comprenais pas tout ce qui se passait, et j'étais un peu dans ma... Oui. Dans cette grossesse, en dépression, etc. Non, je ne comprenais pas cet isolement qui commençait à m'entourer, en fait, comme c'était un isolement qui s'est installé vraiment au moment de cette grossesse, réellement. Et après, moi, j'ai eu du mal à demander de l'aide autour de moi, et puis à demander à ce que les gens reviennent, parce que je me sentais seule et un peu perdue, quoi. Donc je me suis forgé un peu une carapace pendant cette période où je me suis séparée. J'étais dans les démarches, vraiment que dans les démarches.
Que dans les démarches, mais très seule avec un bébé. Et c'est ça qui
exactement.
Est... Et du coup, pas aidant pour vous du tout. Et aujourd'hui, en fait
Aujourd'hui, en fait, je suis... toujours aussi perdue, parce que je me rends compte que tout ce que je fais, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau à chaque fois. J'ai l'impression de me fatiguer à bien faire toutes ces démarches, parce que rien n'a été simple. L'obtention d'une place, pareil, ça a été la croix et la bannière à chaque fois. J'ai l'impression d'avoir... Donc j'ai fait les choses, mais ça me maintenait aussi un peu... pour pas tomber en dépression, si vous voulez, de faire tout ça, de m'agiter un peu. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses ne vont pas forcément, ne répondent pas.
Ça répond pas. Oui, c'est pas dans l'axe. D'accord, Sarah. On va se quitter quelques instants pour les informations, Sarah. Puis on essaye de voir comment vous redonner de la force et vous remettre dans la droite ligne du bonheur pour vous, et en tout cas de quelque chose de plus doux. À tout de suite.
Jusqu'à 1h sur Europe 1.
Sophie Peters.
Vous écoutez Europe 1, c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct sur Europe 1. Je vous invite d'ailleurs à nous appeler au 39 21 pour ouvrir grand vos fenêtres intérieures, pour également venir échanger avec nous, faire l'expérience d'être relié. Quentin et Corentin attendent vos appels au 39 21 et c'est Nicolas Godet qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi intervenir dans l'émission par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit écrit en majuscule. Et puis notez que dimanche soir, et vous aviez été nombreux à apprécier Muriel Siron à cette antenne à mes côtés dans la libre antenne du 1er avril, et bien dimanche soir Muriel Siron revient et sera avec nous pendant les 2 heures de la libre antenne. Donc vous pouvez d'ores et déjà appeler le standard, appeler le 3921 Quentin et Corentin si vous souhaitez échanger avec Muriel dimanche soir. Allez, 39-21, la nuit se poursuit avec vous.
Europe 1,
Sophie Peters.
Rebonsoir Sarah.
Oui.
Alors Sarah, vous nous disiez d'abord dans quelle détresse vous vous trouvez avec un tout jeune bébé, enfin enfant qui a aujourd'hui 18 mois, c'est ça ?
Oui.
Et toutes les démarches que vous avez entreprises dont vous dites ben, finalement j'ai l'impression que je me débat toute seule et que rien n'aboutit. Je veux savoir si dans les démarches que vous avez entreprises, vous êtes tournée aussi vers des aides et du soutien aujourd'hui du côté des mères célibataires seules avec un enfant. Il y a pas mal d'associations de soutien. De quelle façon vous êtes aidée sur ce plan-là et notamment sur le plan psychologique?
Alors, ça n'a pas été tout de suite une préoccupation pour moi. En fait, j'étais vraiment dans l'action, donc je n'ai pas trop réfléchi, même si je sentais que j'étais en détresse très vite.
C'est ce que j'entends.
Je me disais que si je commençais à m'orienter vers une thérapie ou une aide psychologique, je risquais de me ralentir alors que le temps était compté, en fait. Mais je me suis... j'ai été en contact l'année dernière avec une association qui s'occupe des femmes qui sont victimes de violences psychologiques et violences physiques. Donc, on m'avait donné leur contact, mais je n'ai pas... Je n'y suis pas allée, en fait. J'ai repoussé l'échéance jusqu'à ce que, finalement, je sente vraiment le besoin d'être soutenue. J'y suis allée en avril.
Oui.
Il y a à peine 2 mois. Et donc, j'ai commencé... c'était mars. J'ai commencé à participer à des groupes de parole. Donc, ça a été assez... ça m'a fait du bien, la première fois.
Oui, pour retrouver de la ressource.
Je suis sortie de là vraiment soulagée.
Oui.
C'était la première fois finalement que je parlais de tout ça. Parce que en réalité, tout ce qui m'arrive là en ce moment, il y a tellement de choses. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, même dans ce groupe de parole. Et j'y suis vraiment allée pour parler, là pour le coup, de la situation de violence psychologique que je ressens même aujourd'hui, puisque je suis dans une procédure devant un juge aux affaires familiales. Et quand je dis que je me débat beaucoup, c'est que je me suis beaucoup débattue auprès des professionnels aussi de la petite enfance pour leur faire comprendre ce que je vivais dans cette situation. Et le père de ma fille réussit vraiment il est magicien, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive vraiment à tout renverser. Et
il manipule surtout.
Voilà, mais il est... En fait, il va vers ces mêmes institutions, ces mêmes organismes, et il donne sa version des faits, en fait, qui est très à son avantage, parce qu'il passe toujours pour la victime et l'enfant qui doit être... soutenue face à une femme, moi, qui serait quelqu'un de manipulatrice, justement. Mmh. Donc, tout est inversé, et c'est ça qui est très, très, très douloureux, en fait,
parce que
j'ai l'impression de revivre quelque chose dont je ne vais pas parler là, mais c'est dès lors que vous dénoncez une personne parce qu'elle a été malfaisante, malveillante, la chose se retourne contre vous, et ça, c'est très, très dur, en fait.
D'accord. Donc, vous revivez quelque chose. Ouais, ou vous n'êtes pas cru.
Du tout. Ouais. Ma parole est pas du tout, elle est disqualifiée à nouveau, quoi. Et c'est un peu aussi, c'est pour ça que j'étais en rupture familiale également. Mais et là, je revis la même chose, mais avec une personne qui montre un visage, qui est différent de celui de mon agresseur de quand j'étais enfant, mais qui était beaucoup plus autoritaire, violent, visiblement, c'est-à-dire qui ne cachait pas son jeu, alors que celui-ci, le père de ma fille, est très, on lui donne le bon Dieu sans confession, et j'ai été la première à le faire, puisque je l'ai vraiment pris sous mon aile, parce que j'avais en face de moi un enfant qui avait l'air de vouloir être protégé tout le temps. Tout le temps. Ces professionnels de la petite enfance, je ne les trouve pas du tout à l'écoute, mais vraiment pas. Et c'est tout se retourne contre moi. Et j'ai aussi tendance, moi, maintenant, à me méfier d'eux.
Et, vous parlez d'associations quand vous parlez
de... Je parle
de pédopsychiatres.
Protection maternelle infantile, la psychologue que j'étais allée voir.
PMI. Oui, d'accord.
Une psychologue que j'étais allée voir au CMP aussi pour qu'elle voie ma fille, pour qu'elle puisse déceler d'éventuels trouble, oui. Si, puisque ma fille va chez son père un week-end sur deux, donc je voulais un regard extérieur, si vous voulez, et donc j'emmenais ma fille, oui. Et finalement je découvre un peu plus tard que le père de ma fille va voir cette psychologue pour lui parler de ma fille, il retourne vraiment les choses, et cette psychologue ne semble pas comprendre ce qui se passe, en fait, et c'est ça qui est très compliqué pour moi, c'est que tout ce petit monde se côtoie entre eux, et c'est la parole du père de ma fille qui semble primer sur ce que j'ai dénoncé, et c'est très très douloureux à vivre parce que j'ai l'impression que l'intérêt de l'enfant qu'on me rabâche à longueur de temps, c'est qu'une phrase en fait, c'est qu'un slogan, alors, et c'est pas du tout...
Alors que vous savez, et ce qui est bon pour votre enfant, et tout ce qui est alors du côté de... parce que finalement vous vivez quasiment, même si voilà le père est enfin d'une certaine manière présent, une situation quand même de mère célibataire, puisque vous êtes dans cette responsabilité là. Aujourd'hui, le père continue à avoir l'enfant un week-end sur deux.
Oui, parce qu'il y a un jugement en cours, puisque j'avais demandé une enquête, médico-psychologique suite à ces violences. Oui. Son avocate a demandé la même chose contre moi, donc elle est très vous voyez, indicative. Donc on me fait passer pour la personne qui a sa bulle et qui invente des violences là où il y en a pas, et du coup on est dans une situation où on a passé, le juge a opté plutôt pour une enquête sociale, mais l'enquête sociale, la même chose, il a mis l'enquêtrice dans sa poche, mais en deux temps trois mouvements, en lui racontant des choses, parce que j'ai lu le rapport, forcément on a le rapport qui nous est communiqué à chacun. Qu'il voulait de cet enfant, par exemple, qu'il était prêt à verser une portion alimentaire supérieure à celle qu'il verse, qui est le minimum, en fait, là, qui a été appliqué. Des choses qui font qu'il est passé vraiment pour un bon père, et moi, je suis passée pour une personne fragile.
Donc, tout... Oui, oh, allez-y, Sarah.
Donc, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai l'impression de me débattre, c'est que plus je parle... Pourtant, je dénigre pas.
Mais je vous entends, c'est très clair.
Je dis ce qui s'est passé et je dis ce que...
Oui, oui, est-ce que vous vivez dans la réalité ? Oui, bien sûr.
Et c'est vrai que même devant le juge aux affaires familiales, la première fois, moi j'avais fait la bêtise de le croire parce qu'il m'a dit qu'il allait venir sans avocate, qu'il ne voulait pas envenimer les choses et que ce n'était pas la peine que je vienne avec une avocate, qu'on réglerait ça à l'amiable. Et donc je me suis présentée à l'audience, la première audience, et j'ai été littéralement... écrasé par son avocate, puisqu'il arrivait avec un dossier épais comme la Bible, et j'étais démunie, mais en même temps j'avais envie qu'il y ait un cadre qui soit posé, donc j'ai pas demandé de report, et au moins il y avait un cadre quand elle allait chez lui, et j'étais plus toute seule, quoi. Parce que cette situation, c'est cette situation qui me prend plus d'énergie, je trouve, parce que...
Oui, bien sûr, c'est ce que j'entends.
Parce que c'est ma fille, c'est sûr, et puis elle n'a rien demandé, elle n'a pas demandé à vivre tout ça, et là, même quand elle va chez lui les week-ends, on me dit que je m'inquiète trop, etc. Mais il est tellement... il a un recours au mensonge tellement systématique que je ne peux pas lui faire confiance sur un tas de choses, sur des traitements qu'il ne lui donne pas, etc. Et c'est très difficile de ne pas passer pour une mère fusionnelle. Alors que je cherche juste à ce qu'on acte les choses et qu'on comprenne que ce qu'il fait actuellement lorsqu'elle est chez lui et qu'il ne la soigne pas, par exemple, parce qu'il refuse d'administrer tel ou tel médicament qu'il trouve inadapté, alors qu'il n'est pas médecin, je précise. Mais tout ça fait que j'ai l'impression de ne plus pouvoir parler. En fait, je dois rester muette et je dois... je dois subir sans rien dire.
Et le sentiment d'être piégée. C'est là où justement l'association d'aide aux victimes de violences psychologiques peut énormément vous aider. Parce que là, voilà un lieu où vous allez être écoutée. Parce que ce qui me semble très important pour vous, c'est de reprendre de la ressource justement sur le plan psychique, pour pas vous retrouver comme ça dans cette situation où il profite et il abuse de votre détresse. Et donc l'urgence est peut-être pas là où vous l'avez mise, c'est-à-dire que l'urgence c'est vous, c'est aussi vous pour votre enfant, pour vous reconstituer, pour retrouver un peu plus de solidité Alors, aujourd'hui, vous voyez quoi, toujours la psychologue du CMP ou...
Ah non, non, enfin, moi, je ne voyais pas la psychologue du CMP. J'emmenais ma fille, en fait, mais...
Oui, et vous...
Moi, je vois depuis, donc, depuis la rencontre avec cette association une psychologue, mais c'est une fois par mois, donc ça fait que deux séances.
C'est pas suffisant,
c'est pas énorme.
Bah oui.
Et c'était une demi-heure, et puis...
Est-ce que vous pourriez l'avoir plus ?
Très à l'écoute.
Et vous pourriez l'avoir plus ?
J'ai pas osé demander pour l'instant, mais c'est vrai que...
Mais si, osez.
Oui. Comme il y a c'est une permanence en fait, c'est pas quelqu'un qui est là.
Oui, mais vous avez une situation d'urgence, Sarah, qui me semble importante d'expliquer, de voir quelles sont les modalités que vous pourriez trouver pour l'avoir plus souvent. Parce que c'est là où vous avez besoin d'être soutenue, c'est-à-dire d'un lieu où votre parole compte pour reprendre de la ressource et sentir que vous êtes dans quelque chose de juste. Alors, et aussi, par rapport, quels sont les enjeux aujourd'hui pour vous par rapport à lui? C'est-à-dire que vous souhaiteriez que, quoi qu'il n'ait pas du tout, quel est l'enjeu, en fait, du combat par avocat interposé?
Ouais. C'est que lorsque j'y suis allée pour la première fois, c'était d'acter, de faire comprendre ce qui s'est passé, les raisons de notre rupture, la façon dont est arrivée cette grossesse, tout ce qui s'est passé, si vous voulez, avec des droits de visite et d'hébergement qui ont été accordés donc une fois tous les 15, le week-end, un week-end sur deux. Mais lui, il voudrait une garde alternée et ça, moi, pour moi, elle est trop petite et il a demandé ça en plus alors que ma fille avait à peine 8 mois. Il n'est pas capable de s'en occuper quand elle est malade parce que bon voilà, c'est il n'a pas forcément toutes les il est assez immature en fait, il n'a pas cette empathie, ce genre de
Vous pensez que pourquoi il demande à avoir une garde alternée?
Mais juste pour me honnêtement,
c'est par rapport à vous
aussi.
Oui, c'est pour avoir
c'est parce qu'il a absolument parce qu'il a d'ailleurs un métier qui lui permet pas de faire de garder un enfant en alterné, mais même s'il parce qu'il est intermittent du spectacle et qu'il donc il peut travailler très tard la nuit, etc. Mais après il y a aussi sa mère qui dans la boucle, si vous voulez, sa mère qui veut élever cette petite et qui veut venir s'installer ici, donc pour pouvoir élever la petite. Je suis pas toute seule en fait, c'est pas un couple à deux, c'est un couple à trois.
C'est ce que j'allais vous demander. Et elle n'est pas bienveillante avec vous, cette
Ah, pas du tout. Il y a eu, c'est une personne qui faisait beaucoup pour nous rabibocher quand on était quasiment tout le temps en séparation parce que
pendant votre grossesse. Ouais.
Et pendant ma grossesse, elle a été ravie. C'est d'ailleurs elle qui a investi le plus la grossesse que nous deux réunis, en fait, puisque c'est elle qui attendait. Elle a toujours dit qu'elle voulait que j'ai un enfant de son fils, que je donne un enfant à son fils, et que je lui donne à elle un petit enfant, souvent sur le ton de la moquerie, mais c'était assez répétitif comme phrase, ce qui mettait un peu la pression à son fils d'ailleurs. Et puis là, depuis la grossesse, quand j'ai dénoncé les violences de son fils, quand il a secoué notre fille, j'en ai parlé à personne à part à la mère, à la grand-mère donc. Et elle a eu une réponse qui m'a paru inappropriée puisqu'elle était simplement désolée qu'il ait perdu ses nerfs, mais elle n'a pas cherché à lui faire prendre conscience de son geste en fait. Elle a protégé son fils au détriment de sa petite fille. Et depuis cette procédure, il y a des attestations très à charge où on me fait passer pour une personne violente, où on me dit hystérique alors que je suis quelqu'un de calme, sa mère dit même que j'ai été violente avec lui, à l'inverse, totalement le scénario, quoi, et c'est ça qui est fatigant. Alors je sais que tout le monde me dit que les attestations des proches ne comptent pas trop seulement le problème, c'est que lors de l'enquête sociale, moi, mes parents n'ont pas pu être interrogés, puisque donc depuis, mon père aussi est décédé, en fait. Et donc, de toute façon, j'aurais pas aimé impliquer mon père dans cette histoire, quoi qu'il arrive. Mais les parents en face ont été interrogés. Et c'est vrai que leur discours a été rapporté dans cette dans cette enquête sociale, sans nuance, je trouve. Donc, ça fait beaucoup d'éléments qui font que je suis un peu seule au milieu de tout ça, et je dois protéger ma fille parce que c'est elle qui risque de payer les frais de toute cette discorde, si vous voulez, et de cette haine que le père continue à me tenir, parce qu'il supporte pas la séparation, en fait, et que j'ai dénoncé aussi ce qu'il a fait.
Oui, je comprends.
Si je n'avais rien dit, que j'étais restée avec lui,
vous auriez subi sa violence et l'enfant aussi.
Je l'aurais fait subir à ma fille surtout, parce que moi, je pense qu'après la grossesse, j'aurais pu me défendre plus. Enfin, pendant la grossesse, j'étais vraiment à genoux.
Oui et non, parce que là, vous dites l'enfant a 18 mois et vous dites que vous avez été déjà en détresse pendant la grossesse. Vous l'êtes sans doute encore très certainement maintenant, parce que c'est dans l'état où vous étiez, l'accouchement, s'occuper d'un bébé, vous êtes à la fois évidemment très polarisé par cet enfant, mais pendant ce temps-là, et c'est très accaparant, un petit. Et puis il y a vous aussi qui avez besoin de soins et qui avez besoin de soutien, et là vous êtes très seul dans le soutien. Alors peut-être que ce qui me semble important pour vous, Sarah, déjà, il y a effectivement toute l'association avec laquelle vous êtes rentrée en contact, c'est une chose. Il y a aussi tous les organismes qui peuvent peut-être vous aider. Il y a un site qui s'appelle mercélibataire.fr dans lequel vous trouverez des contacts d'aide qui peuvent effectivement vous être utiles. Et puis, il y a aussi le fait que vous avez choisi de garder cet enfant. Il semble que votre désir de mère était sans doute plus fort que toutes les peurs ou que tout ce que vous ayez affronté. Et là, il y a de la ressource en vous, psychiquement, dans ce désir-là.
Oui, et puis, je suis pas une victime. Enfin, j'ai pas envie d'être vue comme une victime, mais si vous voulez, c'est que, j'ai eu cette grossesse, c'est qu'elle devait arriver.
Oui.
C'est vrai que même si j'ai songé à l'avortement au premier trimestre, honnêtement, j'avais vraiment songé à l'avortement. La grossesse a été très difficile à vivre, mais une fois que je sentais les coups de ma fille dans le ventre, j'ai connecté. Enfin, il y avait quelque chose qui s'était passé à ce moment-là, mais une fois qu'elle est arrivée au monde, c'est vrai que je culpabilise beaucoup par rapport à elle, parce qu'elle a pas, c'est pas idéal du tout comme situation.
Oui, et j'ai l'impression d'ailleurs, peut-être Sarah, qu'il y a là quelque chose à regarder pour vous, c'est que du coup, ce qui vous fait combattre comme ça avec l'énergie du désespoir, et en plus passer pour cette personne fragile, c'est votre culpabilité. C'est que il me semble que du coup vous en développez une énergie colossale pour combattre ce sentiment de culpabilité qui n'est pas du tout aidant pour vous, ni pour vous ni pour votre fille. Et c'est là où retrouver un peu de ressources sur le plan psychologique va être plus aidant dans le combat que vous menez que cette culpabilité.
Mais comment on fait pour pas se sentir coupable par rapport à un bébé parce que là,
parce que vous l'avez...
c'est vrai que je travaille un peu sur la culpabilité.
Oui.
Je sais que c'est ça qui me mène dans des relations.
Je comprends.
Mais avec ma fille, c'est vrai que je ne suis pas toujours joueuse, par exemple. Parfois, je suis fatiguée, donc elle me tend des livres et je n'arrive pas à lui lire. Donc, je suis pas à être ce que je devrais être pour un petit bébé de cet âge-là, quoi.
Oui, et vous le savez, du coup, ça vous entraîne dans la culpabilité. Mais quand vous êtes dans cette culpabilité, ce serait vous faire croire que vous auriez les moyens de faire autrement, ce qui n'est pas vrai. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas ces moyens-là, parce que vous êtes épuisé psychiquement et physiquement. Et ce qui est le plus important pour votre petite fille, c'est que vous preniez soin de vous, parce que dans le soin d'elle, elle ira puiser, elle, ce qu'elle pourra chez sa maman. Alors que si vous vous laissez entraîner dans la culpabilité, c'est la croyance que vous devez être autrement finalement que ce que vous êtes et faire autrement que ce que vous auriez à faire. Or l'urgence, c'est de vous restaurer. C'est vraiment, vraiment d'aller mieux pour vous. Et ça lui permettra à elle aussi d'aller mieux. Vous me dites qu'elle pleurait beaucoup à la naissance, elle exprimait quelque chose, et en même temps, ce qui peut aussi vous aider pour lâcher la culpabilité, c'est que cette petite fille, elle vous a choisi, elle n'est pas arrivée par hasard. Et il y a quelque chose qui lui appartient dans son choix. Donc faites-lui un peu confiance. C'est souple un bébé. Elle sait que vous êtes en détresse, elle le sent bien.
Oh, elle me voit beaucoup pleurer, hein, la pauvre.
Bien sûr. Oui, mais quand vous dites la peau, c'est que vous lui faites porter quelque chose dont vous vous sentez 100% responsable. Et ça, du coup, n'est pas aidant puisque vous n'arrivez pas à vous en sortir avec ça. Alors c'est de lui dire, voilà, j'ai cette douleur-là ou cette souffrance-là, mais vous allez vous en occuper. Pour vous et donc pour elle. Et puis, c'est vrai que les auditeurs envoient des messages et sont dans la même, le même sentiment que moi, c'est de vous faire aider par tout ce qui est association de mères célibataires. Parce que finalement, c'est la situation que vous vivez. Et c'est là où vous allez trouver du soutien. Auprès peut-être d'autres mamans, un réseau d'amis, ce sera important pour vous. Et c'est là peut-être le lien que vous faites avec le témoignage de Lucie. C'est que vous avez aussi besoin d'amitié de femmes autour de vous. Et d'hommes aussi.
Oh,
mais...
Non, en fait, je vous coupe, excusez-moi.
Oui, non, bien sûr.
Je trouve que les femmes dans ma situation, il y a deux volets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont déçue parce que dans le milieu de la petite enfance, il n'y a que ça. Et elles sont. Enfin, je trouve qu'elles sont trop attendries par le discours et
du
par
papa.
Du père, qui est très malin. Mais c'est vrai que les femmes que je rencontre à l'association des femmes victimes de violences, en revanche, là, j'ai un vrai. Enfin, je sens des mamans, quoi, presque des personnes très aidantes et très écoutantes, et qui ne vous jugent pas. Et
oui,
qui,
c'est ça dont vous avez besoin, bien sûr.
Voilà.
Oui.
Et c'est vrai qu'il y a deux. Enfin, là, c'est vrai que.
Oui,
je suis un
il y a
peu
deux volets. Peut-être. Oui, peut-être qu'effectivement, dans l'aspect petite enfance, vous en face de gens dont c'est le métier aussi de juger, puisqu'il y a quelque chose à trancher, et que c'est pas l'endroit où vous vous trouvez bien. Mais c'est important d'aller effectivement dans des lieux où là vous ne serez pas jugé. Mais sans vouloir vous faire positiver à tout prix, c'est de percevoir en vous quels sont vos désirs alors que la période est très douloureuse pour vous, de comprendre que vous n'êtes pas seule parce qu'il y a ce lien avec l'enfant qui effectivement vous absorbe beaucoup, mais là, c'est aussi cet accaparement qui rend difficile pour vous de déployer de l'énergie pour recréer des relations autour de vous. Mais ça va se mettre en place. C'est que c'est important que vous laissiez cette relation avec votre enfant habiter le quotidien, que ça puisse vous petit à petit vous donner un peu de joie, même si ce sont des toutes petites éclaircies, que vous puissiez capter là un petit peu de ressources, parce que je suis persuadée aussi que ce bébé a à cœur aussi de donner un peu de cette joie-là à sa maman. Et si vous êtes constamment dans la culpabilité d'être la mauvaise mère, alors vous n'allez pas être en capacité de recevoir ce que cette petite fille, elle, peut vous donner.
Et c'est pas toujours le cas, c'est vrai que c'est aléatoire, ça dépend. Parfois j'arrive à être positive même dans mes projets, enfin, c'est-à-dire je me dis que c'est un cap, les épreuves, le ciel va s'éclaircir, quoi.
Oui.
Parfois je me dis ça, mais parfois je suis il y a des jours où je suis fatiguée physiquement, psychiquement, souvent
bien
c'est
sûr.
Quand je suis en contact avec d'ailleurs le père de ma fille ou avec les avocats, Et souvent c'est ça, mais parfois il y a des moments vraiment où j'ai l'impression de retrouver celle que j'étais avant, en fait, d'être battante, d'être confiante en l'avenir et de pas noircir trop le tableau et de me dire que c'est juste des épreuves d'une étape, mais c'est vrai que là tout arrive en même temps et une autre chose que je crains aussi, parce que j'ai l'impression de tenir là, donc de ne pas flancher. C'est vrai que je sais pas dire si je suis en dépression ou pas, honnêtement, mais je suis dans l'action en tout cas. Et je me dis que le jour où je vais retrouver un logement, parce que je vais devoir quitter celui-ci bientôt, retrouver un logement et puis peut-être démarrer un nouveau travail, je vais peut-être flancher, parce que je me rends compte aussi que je n'ai pas réalisé le décès de mon père qui est survenu là en février, et j'ai l'impression de ne pas réaliser ce qui s'est passé sur ce décès.
Oui.
Parce que j'étais accaparée par autre chose et que j'adore mon père et que ça m'a beaucoup... Et voilà, j'ai été touchée en apprenant et en voyant sa dépouille, vraiment. Mais je n'ai même pas pu assister à l'enterrement parce que je suis arrivée très en retard dans l'autre endroit où ça se passait, en fait. Et j'ai raté l'enterrement à 15 minutes. Et j'ai l'impression de pas être entrée dans le deuil pour l'instant.
Oui.
C'est bizarre comme sensation.
Oui.
Et j'ai peur que ça me revienne en pleine figure d'ici... Une fois que j'aurai l'impression que ça va mieux,
oui, vous
que
avez...
les choses s'arrangent.
Oui, que quelque chose... Vous avez des frères et sœurs, Sarah ?
Oui, mais il y a, comme je le disais un peu plus tôt au début, comme j'avais eu une procédure contre l'un de mes frères il y a très longtemps, et on avait coupé les ponts suite à ça, puisque personne ne m'avait soutenue dans ma démarche, en fait.
Et aujourd'hui, il n'y a pas de lien...
J'ai tenté d'en recréer à la naissance de ma fille, parce que j'ai renoué avec tout le monde, parce que j'avais envie que ma fille rencontre ses cousines. J'avais envie d'être soutenue par ma famille aussi. Mmh. Et puis finalement, ça ne s'est pas concrétisé quand il y a des choses qui...
Je comprends votre inquiétude de dire le jour où ça ira mieux, je risque d'avoir un effet boomerang du deuil de mon papa, mais quelque chose s'élabore aussi en souterrain, malgré vous, et que très certainement, il se peut que vous ayez des moments d'immense tristesse qui vous prennent, mais de là à vous dire ça va m'empêcher, c'est comme si ce que j'entends c'est je suis victime de mon destin, et il y aura toujours quelque chose pour m'empêcher et me barrer la route, et quand j'aurai réglé ça, autre chose m'attend. Donc vous fabriquez aussi à votre insu, et sans doute dans votre détresse actuelle, les germes de quelque chose de difficile pour vous. Or, vous allez avoir effectivement besoin de vous appuyer sur un nouveau départ, et c'est ce nouveau départ, c'est-à-dire cette réalité-là, quand elle sera là, qui va être aidante. Mais si déjà vous imaginez, la peur vous fait imaginer que autre chose viendrait vous barrer la route, ou vous de nouveau vous presque vous anéantir, c'est que vous laissez la place à ça.
C'est-à-dire que j'ai souvent eu un fonctionnement comme celui-ci où vivais les malheurs qui m'atteignaient, sur le moment je ne réagissais pas en étant déprimée ou dépressive ou
et ça vient après,
mais ça revient plus tard, quelques années parfois plus tard, mais quand je vis le traumatisme, au moment où il arrive, je ne l'exprime pas, en fait mon corps ou mes émotions ne l'expriment pas tout de suite sur le moment.
Oui.
Et ça arrive qu'être plus tard, beaucoup plus tard.
Oui, vous aurez besoin, et vous avez déjà besoin, Sarah, d'être très aidée et très soutenue sur le plan psychologique pour que ce mécanisme que vous décrivez puisse ne plus continuer, mais surtout pour que vous puissiez aussi trouver cette ressource, et que vous ne soyez pas dans ces répétitions, parce que là vous êtes en train de me dire voilà, mon mode de fonctionnement c'est ça, et donc je suis destinée à avoir toujours le même. Or il y a une rupture dans vos schémas aujourd'hui, c'est cet enfant, et c'est le combat que vous menez, et ce combat là il vous tient malgré tout. Et ça, j'ai l'impression que ça crée quelque chose d'un peu nouveau. Donc, quand vous me dites, je vis pas les traumas là, tout ce que vous venez de nous raconter, vous le vivez bien. On est bien. Vous n'êtes pas en train de vivre en différé. Vous êtes bien dedans. Et c'est ça, bien sûr, qui vous occupe aujourd'hui.
Oui, ma fille.
Oui. Donc ne pas créer des raccourcis. Alors, Sarah, il y a Lilia qui dit vous êtes très courageuse. Dites à votre petite fille que vous l'aimez, vous en sortirez toutes les deux. Et faites-vous aider, parce que vous le méritez bien toutes les deux. Il y a Monica qui dit votre petite fille vous aime, mais si elle pleure souvent, c'est peut-être parce qu'elle est un peu triste pour vous. Monica demande dans quelle région vous êtes, mais vous nous l'avez dit, je crois que vous êtes en région parisienne, hein. Vous êtes sur Paris, oui. Et puis, voilà, Yannick, il laisse son numéro pour vous. Témoignage très touchant de Sarah. Si elle, elle le veut pour parler, il laisse son numéro. Il y a Natacha qui dit « On ne naît pas maman, on le devient ». Et elle a raison, Natacha. Oui. Reprenez confiance en vous, bien sûr. Et puis, c'est nos enfants qui nous apprennent à devenir parents. Hein. On l'apprend à l'école de la vie. Quelle ténacité, quel courage, dit voilà, un autre auditeur. Et puis, voilà, vous êtes une excellente maman, dit Nini, remplie d'amour et de douceur. S'il vous plaît, ne vous culpabilisez pas. Vous êtes la l'une pour l'autre. Et c'est vrai, elle a raison, Nini. Prenez soin de vous, soyez indulgente envers vous-même, vous le méritez, bon courage à vous. L'indulgence que vous aurez d'ailleurs, Sarah, c'est celle qui va le plus aider votre petite fille. Ça va mettre beaucoup de douceur, même dans votre combat. Il y a beaucoup de violence dans le combat que vous menez. Donc, pour commencer à faire germer des graines de paix, même si, voilà, le père de votre enfant n'est pas là-dedans. Mais vous, vous pouvez planter quand même. Et c'est déjà être en paix avec vous, c'est déjà ne pas vous faire la guerre à vous, parce que la culpabilité, c'est que vous menez la guerre contre vous en même temps. Vous pouvez pas être sur tous les terrains là en guerre. Hein, vous avez besoin de faire la paix avec vous-même. Il y a Geneviève hein, qui laisse son contact. Hein, mes coordonnées pour cette jeune maman, dit Geneviève, avec toute mon amitié. Et merci. Puis Anne-Marie aussi. Et tout ça, ce sont des contacts, Sarah, grâce à la Libre Antenne, voilà, avec lesquels vous allez pouvoir échanger. Vous avez besoin d'être entourée, vraiment. Et tout ce qui va dans ce sens-là va pouvoir vous aider pour trouver de la ressource. On en trouve en soi, mais quand on n'en a plus en soi, on la trouve aussi chez les autres.
Oui, certainement.
Oui. Courage à vous, Sarah. Et voilà, je pense vraiment que pour vous, le chemin le plus urgent maintenant, et du coup le combat sera moins violent, c'est d'aller dans la paix avec vous-même. Et ça peut vraiment faire germer autre chose, et ne plus être trop focalisé sur le combat juridique que vous menez.
D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour vos mots. Ça résonne. Ouais. J'entends tout ce que vous me dites et ça résonne beaucoup. Donc, je vais essayer de replacer les curseurs.
Oui, et puis gardez confiance. Oui, il y a aussi une autrice qui disait « On vous sent très lucide », c'est vrai. Et c'est peut-être d'ailleurs cette lucidité qui vous rend dingue, hein, d'une certaine manière. Bah, bien sûr, hein, quand on voit clair, c'est insupportable. Il y a quelque chose à lâcher, là, pour que ça puisse s'apaiser. Alors, lâcher sans rien lâcher, ne pas lâcher l'essentiel qui est effectivement voilà, la défense de votre enfant, mais lâcher quelque chose de l'ordre du combat pour le combat. Et ça passe par vous, là, pour le coup. Ça passe entre vous et vous. Ne plus vous combattre, vous. Et là, vous allez retrouver un peu de douceur, un peu de respiration, un peu d'espace. C'est ça dont vous avez besoin. Je vous embrasse, hein, Sarah. Bon courage à vous.
Moi aussi, je vous embrasse fort et j'embrasse les auditeurs. Et merci pour les messages. Merci beaucoup.
Au revoir, Sarah. Bonsoir, Marie-Christine.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Oui, je suis un peu angoissée.
Oui. Oui, je l'entends. À votre bonsoir.
Mmh. Bonsoir. Je vous appelle parce que j'ai eu un souci à mon travail.
Oui.
Parce que j'ai été arrêtée pendant un an.
Oui.
Par rapport au décès de mon papa.
Oui.
Et après, j'ai eu... j'ai fait une dépression et...
Suite au décès de votre papa, hein. Un an en dépression,
oui. Oui. Après, j'ai eu des soucis au bras.
Oui.
Qu'est-ce
qui s'est passé au décès de votre papa pour que ça vous tombiez en dépression, Marie-Christine?
Mais parce que j'avais été le voir le dimanche et
oui.
Tout allait très bien. Et
oui.
Et il est tombé du lit et il s'est cassé le bras. Et comme il avait le cœur un peu fragile, et il est décédé.
Il est décédé. Il avait quel âge, votre papa?
85 ans.
85 ans, oui. Et vous en êtes voulu, c'est ça? Vous vous êtes dit, j'étais pas là? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, je m'en suis voulu, oui, parce que personne ne me l'a dit.
Personne ne vous a dit quoi?
Qu'il était tombé. Enfin, lui m'a appelé pour me le dire, mais bon, c'était trop tard et j'ai pas pu. C'était 7h du soir et je serais, comme c'était assez loin de chez moi, je pouvais pas.
Oui, vous pouviez pas arriver. Voilà. Et il est décédé après dans la nuit.
Oui.
D'un arrêt cardiaque.
Oui, je pense.
Et vous
On nous a pas dit vraiment.
Oui. En tout cas, vous pensez qu'il a été fragilisé par cette chute?
Oui.
Qu'est-ce qui aurait été différent pour vous d'être là alors que vous veniez de le voir, hein? Vous aviez des liens très proches.
Oui.
Qu'est-ce qui aurait fait la différence pour vous?
Ben, parce que j'aurais aimé être à côté de lui.
Au moment où il partait?
Oui.
Mais on ne choisit pas ça souvent, Marie-Christine.
Mm-hmm.
Hein, il arrive parfois, souvent, en tout cas dans des cas où on est là à veiller quelqu'un de très malade, par exemple à l'hôpital, dont on sait que ça va être les derniers instants, et puis on s'absente de la chambre, de la pièce, une heure, deux heures, quelquefois, et la personne est partie. Parce qu'elle a... voilà, c'est pas quelque chose sur lequel on a de la prise, on peut dire, ben voilà, elle est partie pour protéger voilà, ses proches, et puis d'autres partent en présence de leurs proches. Et ça, ça leur appartient. C'est pas à vous que ça appartient, Marie-Christine. Ça nous appartient pas à nous qui restons vivants. Ça appartient à la personne qui s'en va.
Et par contre, bon, après mon employeur qui est la fonction publique m'a licencié.
À cause d'un an d'arrêt ou...
Oui, à cause d'un an d'arrêt.
Ou votre poste a été supprimé, parce que la fonction publique, elle n'a pas pour habitude comme ça, ou alors il y a une suppression de poste. Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce qu'ils m'ont mis en impossibilité de retravailler.
Ah, le médecin vous a mis en invalidité?
Oui, c'est les médecins du travail qui m'ont...
Ah.
Qui
ont estimé que vous n'étiez pas apte à reprendre le travail.
Ils me mettent convient s'engager d'une procédure de licenciement pour inaptitude physique. Voilà.
Et qui décide... Là, c'est tout récent, ça, Marie-Christine?
Oui, c'est là depuis le mois de mai.
Ah, d'accord. Et du coup, ça ravive tout parce que le très long deuil, le décès, là, c'est la lourde peine pour vous. Vous avez l'impression que c'est double peine. Non seulement j'ai pas été là pour mon papa, mais en plus, maintenant, je perds mon emploi. C'est ça que vous ressentez?
Oui.
Qu'est-ce que vous pouvez... Vous vous sentez, sur le plan physique, sur quoi il se base pour vous mettre en invalidité?
Je ne sais pas exactement si ça vient de par rapport à mon bras, parce que j'ai un bras que je ne peux plus trop bouger, parce qu'il me fait mal.
Mais vous somatisez, Marie-Christine? Votre papa, vous dites qu'il s'était cassé le bras en tombant. C'est le même bras? C'était quel bras, votre papa?
Oui, le gauche.
Et vous?
Aussi.
Tiens. Vous somatisez, Marie-Christine. Vous faites un lien. Ça arrive, hein? C'est pas rare, hein, qu'on voit, quand on perd un proche, développer la maladie, quelque chose qu'avait le proche. Vous êtes encore toutes liées à ce papa? Ben oui. Il a quoi? Vous avez quoi au bras actuellement? Des inflammations? Il est enflammé?
J'ai de l'arthrose et... Et bon, j'ai fait des injections et ça passe pas, quoi.
Non, ça passe pas, parce que c'est pas par là que ça passe. Ce bras, il vous parle de votre papa. Il est lié à votre culpabilité. Vous souffrez comme pour rentrer en lien avec la souffrance de votre père que vous n'avez pas pu soulager.
Je sais pas, c'est bizarre.
Bah oui, quelquefois ça paraît bizarre. Mais c'est pas si bizarre que ça. C'est même tout à fait... Ça a tout à fait du sens. Et alors, du coup, votre douleur au bras vous empêche de faire votre travail? C'est ça?
Oui.
D'accord. Parce que c'est un travail...
Oui, parce que je peux pas le lever. Je fais des ménages le soir.
Ah oui.
Je faisais la garderie de midi et j'avais un mi-temps. Je faisais...
Dans une école?
Oui.
Et c'est très fatigant.
Ouais. Oui. Parce que je ne comprends pas s'ils ont le droit de faire ça, si ce que je dois faire.
Oui, si c'est sur avis médical. Mais est-ce qu'il n'y a pas... est-ce que ce n'est pas finalement l'opportunité, hein, toute crise étant une opportunité, de faire autre chose autrement, Marie-Christine, quelque chose qui soit bon et bien pour vous, de ce corps qui dit qu'il souffre, de ce cœur qui dit aussi qu'il souffre à travers votre bras, hein, puis le bras gauche, c'est celui du cœur. Il y a du soin, il y a du soin à vous apporter, Marie-Christine, et peut-être sur le plan de l'emploi, je ne sais pas, par rapport à une école privée, par exemple, dans la région, si vous savez travailler pour une cantine, le ménage c'est très fatigant, mais vous pouvez peut-être sur des garderies ou des repas scolaires, ou il y a peut-être autre chose pour vous, puisque vous connaissez cet univers.
Oui, si c'est... Bon. Oui. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça?
Bah, droit à un licenciement sur un aspect médical. Non, si eux décident que vous n'êtes pas apte à reprendre votre travail, à moins de faire soit une contre-expertise médicale avec votre médecin ou d'avoir des soins. Mais est-ce que, en même temps, c'est très protecteur pour vous de reprendre un travail qui va effectivement solliciter votre corps et votre bras et qui risque d'être très douloureux à assumer ce travail. Vous pensez que physiquement vous pourriez, en admettant, je comprends hein, l'aspect licenciement qui est pour vous parce que vous vous sentez abandonné de nouveau. Votre père s'en va, il vous abandonne et votre travail vous abandonne. Vous êtes vraiment dans quelque chose, d'une situation qui se fait écho, qui se répond.
Mmh. Je ne l'avais pas.
Et le lien, c'est ce bras.
Mmh.
Ce bras qui est tendu, mais qui ne sert plus de main.
Non, il ne marche plus.
Il ne marche plus, oui.
Il ne lève plus.
Oui.
Puis il me fait mal. Mmh.
Qu'est-ce que vous pourriez faire en lien avec ce papa pour soigner ce bras? Ça passe par quelque chose avec votre papa pour qu'il aille mieux votre bras. Qu'est-ce qu'on pourrait là imaginer ensemble toutes les deux qui vous ferait du bien et qui pourrait apaiser tout ce chagrin et tout ce lien dans lequel votre culpabilité est telle que vous... que votre bras témoigne hein, de cette culpabilité terrible que vous vous infligez. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider, vous, Marie-Christine, là?
Je sais pas.
Si on cherche, là, un peu, ensemble, il nous reste quelques minutes, qu'est-ce qui serait parlant dans votre histoire par rapport à ce papa? Est-ce que ce serait aller lui parler, aller déposer quelque chose sur sa tombe?
Non, j'y vais.
Oui. Et est-ce que vous lui avez raconté toute cette histoire? Que vous
non.
vous en vouliez, que vous avez été arrêté un an, qu'aujourd'hui vous avez mal au bras, le même bras que le sien?
Non, ça je lui ai pas dit.
Et vous lui parlez de tout l'amour que vous avez pour lui, comme il était si important?
Oui.
Ouais.
Ça oui.
Ça oui. Hmm. Votre maman est toujours là?
Non, elle est décédée aussi.
Elle est décédée.
Elle était jeune.
Et vous êtes mariée, vous avez des enfants ou vous...
Oui.
Oui. Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils sont grands, vos enfants?
Oui.
Est-ce qu'ils sont aidants pour vous? Qu'est-ce qu'ils en
oui.
pensent de tout ça? Oui, ils sont là.
Oui, ils sont là. Ils sont proches.
Ils sont proches pour vous, oui.
Oui.
Donc il y a une vie là, il y a une vie qui avance, la vôtre,
oui,
celle que vous avez créée. Mmh. Votre papa a eu la sienne. 85 ans, son trajet de vie. Il n'a pas forcément souhaité que vous soyez là. Il vous voyait régulièrement, si je comprends bien. Vous étiez très proche.
Oui, mais bon, on était quand même un peu loin. Mais dès qu'il nous appelait, enfin,
vous
qu'il
étiez
nous appelait,
là.
On y allait.
Oui. Vous vous punissez, Marie-Christine, aujourd'hui. La punition est trop lourde. Allez sur sa tombe, lui parler de toute cette punition. pour vous
en délivrer.
Non,
j'ai pas l'impression que je me punisse, moi.
Si, votre bras en témoigne. Mm-hmm. Si, la douleur à votre bras. Hein, vous en voulez tellement de ne pas avoir été là que... Bah que finalement vous créez ce lien, puis vous continuez à avoir mal à ce bras gauche, c'est rester en lien avec lui, avec ce qui lui est arrivé. Même si votre deuil est long et vous dites que vous avez été arrêté un an, mais il y a une façon que je suis certaine vous allez trouver qui va vous parler juste rien qu'à vous. Trouver quelque chose qui ait du sens dans le lien que vous avez avec votre papa pour lui dire un au revoir en douceur, voilà, quelque chose d'apaisé. Et demandez-lui de vous aider pour votre bras. Commencez à lui, c'est lui qui va vous soigner votre bras, vous allez voir. Mmh. Confiez-lui votre douleur.
D'accord.
Mmh. Et allez peut-être aussi en parler avec quelqu'un qui pourra vous écouter.
D'accord.
Hein, ce serait important.
D'accord.
Il y a un auditeur qui dit que vous pourriez demander un reclassement, peut-être, voilà, avec votre employeur, peut-être dans l'école où vous êtes.
Ils n'ont pas voulu.
Ils n'ont pas voulu, ouais.
Donc enfin, c'est que j'ai demandé. Ouais.
On doit se quitter. Je suis navrée, Marie-Christine, parce que c'est la fin de l'émission. Le couperet tombe, mais je pense vraiment que c'est une nouvelle page qui se tourne pour vous et une opportunité. Courage à vous. D'accord. Je vous embrasse. Il est 1h. Bonne nuit à tous et à toutes. Faites de vos rêves. On se retrouve demain à 23h. N'oubliez pas, dimanche, il y aura Muriel Siron à mes côtés. Je vous laisse en compagnie de Christophe Ondelat dans Ondelat raconte et ses passionnantes histoires. Faites de vos rêves. Bonne nuit.